France Inter, franceinter.com. CO2 mon amour, avec Paprec, recyclage des déchets des industries et des collectivités.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement avec aujourd'hui Sandrine Laurent et Vincent Godard à la technique et assisté de Jean-Christophe Pinaza et Céline Bézis et Xavier Pestugia qui réalisent cette émission. Et on va débuter par une petite humeur sur fond de Stéphane Grappelli. C'était un début de siècle, c'était une terre où il poussait de la faim. Au lieu d'y faire pousser du blé, du riz, on plantait des graines de pétrole et on récoltait des ventres creux, des regards affamés. Oui, c'était le début de la faim. Ou plutôt la suite. Près de 900 millions de gueux d'estomac en sursis testent le modèle des jours sans lendemain. 900 millions aujourd'hui, demain 2 milliards, qui dit mieux? Oui, mais comprenez, moi mon boulot... En dollars, en yuan, en euros, en yens, assoiffé, c'est d'être placé. En peu de temps, pomper un max. Comme le gui sur la branche, comme une cellule maligne, comme un tuyau qu'on branche, j'assèche, j'avale, je tarie, je me fais une ligne de crédit. Et puis, je me tire, je change d'axe. Un jour les diamants, un autre le pétrole, les OGM, ouais. La construction américaine, oh, j'ai laissé tomber. Trop vulgaire, on vendait à des pauvres qui n'étaient pas solvables. L'économie réelle? Ah non, là vous faites erreur, je me présente. Je suis la spéculation, la bulle financière. Je ne produis rien du tout. Je spécule, donc je suis l'ami des traders, la financial killer pour vous servir. Alors en ce moment, mon truc c'est l'acier, le ciment, le cuivre, mais surtout j'en croque pour les céréales. Donc aussi le lait, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la banquière. La bouffe quoi, imparable. Plus de 6 milliards de ventres, 1 sur 5 est asiatique. La faim pour les pauvres, l'obésité pour les riches et les deux pour les pauvres dans les pays riches. Il y a bon, la spéculation, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de ligne blanche, sauf pour la coke, pas d'éthique, de frontières, de régulation, tout ce que j'aime. Je me balade, j'adore ce monde. Comment ça, je fais monter les prix de la nourriture? Il n'y a donc pas que le réchauffement climatique et la rareté? Je ne peux donc pas leur mettre tout sur le dos à cela? Remplir les réservoirs et vider les ventres avec les mêmes céréales? J'y suis pour quelque chose? Non mais vraiment, vous croyez? Le même flacon et toujours plus de monde au balcon. La même bouteille pour tout le monde dans un monde fini. Ah oui, ça c'est nouveau, ça vient de sortir, ça fait mal à l'ego et ça dégraisse la vie. Dow Jones du matin, indice Nikkei du soir, CAC 40 remonte enfin. L'environnement est à genoux. Croissance, mon beau miroir, on s'en fout. La nature, ça ne compte pas. Oui. Mais la plus belle terre du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Alors je vous connais, bientôt vous allez me dire, il faudrait mieux partager les ressources. Moi comme vous y allez. Heureusement que dans beaucoup de pays, on emprisonne pour moins que ça. C'était une terre et un début de siècle où il poussait de la faim. Au lieu d'y faire pousser du blé, il y poussait des ventres affamés. C'était le début de la faim. Mais, on va se réveiller, lutter, sobriété, chercher un nouveau Graal, en jouant moins perso, apprendre à être heureux demain en faisant plus avec bien moins. Ce sera un peu long, mais vous verrez. Même vous, vous direz, même pas mal. Alors au menu de cette émission, Jean-Marie Pelt dans quelques instants qui va nous raconter un peu l'histoire, on va dire écologique de l'Australie. Et puis, qui écoutait, qui souriait aussi, Elisabeth Laville qui est experte européenne de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, qui écrit de nombreux livres, qui est aussi intervenante de temps en temps quand même dans CO2 Mon Amour et on y reviendra. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Denis.
J'ai presque dire, puisque là on va parler évidemment des métiers qui concernent pas mal de jeunes qui nous écoutent et qui se disent, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard, mais j'ai envie de rebondir aussi, puisque là je parlais malheureusement de ventre creux, de famine, etc. Ce matin, vous étiez dans un colloque et vous parliez de l'huile de palme. Alors ça, c'est aussi quand même très, 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 très symbolique et très révélateur de ce qui se passe, l'huile de palme.
Oui, c'est très symbolique. C'est pour ça qu'on avait pris d'ailleurs ce sujet-là pour lancer ces cafés conso, parce que c'est vrai que c'est un produit hyper courant, puisqu'en fait, on le trouve en Europe, je crois, dans un produit de grande consommation sur 10, et dans certains, sur les chiffres, les plats cuisinés, les glaces, etc., tendance même 1 sur 2. Mm-hmm. Donc à la fois, on en achète tous les jours, et en même temps, on le voit pas, parce que la plupart du temps, on n'a pas conscience de l'acheter, compte tenu du fait que c'est pas marqué, c'est un tout petit ingrédient.
Petit au petit, ouais,
par contre, à force de mettre en toute petite quantité dans beaucoup de produits, forcément, on en consomme énormément. Et je crois que c'est la deuxième huile végétale échangée dans le monde, donc c'est après le soja. Donc c'est énorme. Et puis, on n'a pas tellement de moyens de contrôle, parce que justement, sur l'étiquette, c'est pas indiqué. Des fois, il y a matière végétale, huile végétale, etc. Donc on sait même pas ce que c'est. Et par contre, les impacts... Donc ici, on voit presque rien. Et les impacts en Indonésie, en termes de déforestation, frustration des populations locales, etc., sont complètement gigantesques.
Et donc, là, il y a quand même le moyen... pour le consommateur, s'il s'intéresse un petit peu plus aussi donc à ces fameuses étiquettes. Je dis pas que pour tout on peut y arriver parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Mais enfin, il est là aussi un des pouvoirs. Il y a le pouvoir du citoyen, le pouvoir du politique et le pouvoir du consommateur.
Alors là, oui, justement, la question qu'on se posait ce matin lors de cette conférence, c'était justement qu'est-ce qu'on peut faire. Alors c'était intéressant parce que dans les solutions qui étaient évoquées par les amis de la terre, les grandes entreprises qui étaient là, il y avait toute une série de choses allant du très immédiat qui concerne chacun d'entre nous au quotidien, c'est-à-dire essayer plutôt de privilégier les produits bio ou équitable, parce que l'huile de palme, elle existe aussi, mais de manière très marginale aujourd'hui en version bio équitable. Mais aussi, en fait, on peut pas vraiment la substituer dans beaucoup d'utilisations. Donc ça sert pas à grand chose. En Angleterre, il y a toute une tendance de produits sans huile de palme. Mmh. Et même les amis de la terre disaient non, mais il faut l'huile de palme. Par contre, il faut réclamer. C'est là que le pouvoir des consommateurs intervient. Demander la traçabilité, c'est-à-dire d'où elle vient, dans quelles conditions elle a été produite, qu'est-ce qu'elle a comme certification, etc., etc. Donc très local et aussi très global, puisqu'on a fini sur un conseil qui rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui était, la première chose finalement qu'on peut peut-être faire sur l'huile de palme, c'est de dire non aux agrocarburants et d'essayer de réduire nos propres consommations d'énergie, parce qu'évidemment, si plus il va y avoir de pression pour transformer du colza, mais aussi enfin du colza, du soja, etc., notamment colza en carburant, plus ça va créer de pression aussi sur l'huile de palme, et puis on aura besoin de production intensive. Or c'est ça qu'on essaie d'éviter.
Alors Elisabeth, on va parler dans quelques instants avec vous donc des métiers de l'environnement. Jean-Marie Pelt va nous rejoindre, mais on va débuter en musique grâce à Carl Vasseur, notre programmateur. Voici Feist.
Bye.
Je pense pas que la chanson que nous venons de passer était australienne. Jean-Marie Pelde, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Ah, comme Australie aujourd'hui avec vous Jean-Marie, bah quand même sacré morceau de territoire. Quelle surface ?
14 fois la France, oui. Et 20 millions d'habitants.
Et un véritable continent.
Et un véritable continent, mais c'est un immense désert avec sur les bords des régions qui peuvent être à la fois cultivées et habitées. Mmh. Alors l'Australie, je l'ai choisie parce que elle vit une crise écologique majeure. Oui. C'est le plus vieux continent, non pas qui historiquement il soit venu avant les autres, mais c'est le continent où on trouve le plus de souvenirs de ce qu'était la Terre tout au début. On y trouve des roches qui sont vieilles de plusieurs milliards d'années, qu'on ne trouve pas ailleurs. On trouve des cristaux, le zircon, daté de 4 milliards d'années. Dans ces cristaux, il y a d'autres cristaux qui sont incrustés, ce sont des diamants qui ont 3 à 4 milliards d'années. Sur les bords de mer, on trouve des espèces de petits monticules qui sont formés d'algues bleues antérieures à toutes les plantes supérieures, qui sont identiques à ce qu'elles étaient il y a 3,5 milliards d'années. Donc c'est une espèce de continent archive, si vous voulez. Et alors ce continent archive a vécu dans les joies de l'ultralibéralisme à l'américaine. Bon, eh ben ça marche plus. Alors ça marche plus parce que l'écologie s'y est mise, et a fait avec des sécheresses à répétition, très graves sécheresses, des dégâts considérables. Les années sèches se suivent les unes après les autres depuis en gros 5 ans maintenant, et à chaque été austral, on a ces images de ces formidables incendies qui viennent lécher la banlieue de Sydney, ce qui n'existait absolument pas, et on assiste à un effondrement massif des récoltes, avec des rendements en blé qui se sont complètement effondrés et qui d'ailleurs ont joué un rôle dans la montée des prix des céréales, parce que des telles sécheresses, il y en a eu beaucoup, et pas seulement en Australie. Songez qu'il y a un an, la récolte de blé s'est effondrée de 90%, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Et on pourrait dire que l'Australie n'a pas vu venir ça, on y a construit de très grandes maisons, pas du tout isolées, où la clim dégage des quantités importantes de gaz à effet de serre, et que maintenant on se dit zut alors, voilà, type que ça marche plus comme avant.
Donc beaucoup d'insouciance.
Beaucoup d'insouciance, mais les températures ont, elles, beaucoup monté, elles ont monté de presque un degré depuis 1960, donc il y a énorme, plutôt plus qu'ailleurs. Donc il y a une menace très importante de réchauffement. Eh bien, cette Australie insouciante n'a pas ratifié le protocole de Kyoto. Et le nouveau Premier ministre qui a été élu ces tout derniers mois l'a ratifié. Donc il y a une prise de conscience qui s'est faite brutalement. On s'est réveillé d'un seul coup. Alors il n'y a pas seulement le continent qui est menacé par ces graves sécheresses, sans doute liées au réchauffement climatique. Il y a aussi la grande barrière de corail qui s'étend à l'est du continent sur 2000 km de long.
Oui, c'est la plus grande.
C'est la plus grande du monde. Alors on commence à assister à ce qu'on appelle le blanchiment du corail, c'est quand les polypes, qui sont les petits animaux qui vivent en colonie et qui forment ces architectures qu'on appelle le corail, expulsent les algues qui vivent en osmose et en symbiose avec elles. Et donc le corail meurt. Mais si le corail meurt, C'est tout un écosystème qui part en même temps.
Toute la pouponnière à poissons dégage. Quoi.
Absolument, il y a une formidable pouponnière à poissons. Alors pourquoi il y a ça? C'est parce que la température de la mer augmente aussi. Et là, on est en train de découvrir cette chose très surprenante, à vrai dire. C'est que lorsque la température de la mer augmente de 1, bon, peut-être même 1,5 ou 2 degrés, le corail ne le supporte pas. Il est extrêmement sensible à l'augmentation de la température de la mer. Et il est très sensible aussi à l'augmentation de l'acidité de la mer, parce qu'au fur et à mesure qu'on dégage de plus en plus de gaz carbonique à effet de serre, il s'en dissout de plus en plus dans les mers, et les mers deviennent acides. Donc l'acidité et le réchauffement, c'est mortel pour le corail. Donc ce sont des écosystèmes entiers qui sont aujourd'hui complètement menacés. Ah ben, la question se pose, bon, vous êtes Premier ministre d'Australie, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, d'accord, on va commencer par ratifier Kyoto. Ensuite, on va diminuer drastiquement les systèmes d'irrigation, puisqu'il n'y a plus d'eau dans les rivières. On va faire de l'irrigation au goutte à goutte. On va être condamné à faire des usines de dessalement de l'eau de mer. On en a fait une à Perth, qui est cette grande ville, cette fois-ci à l'ouest de l'Australie. Il y a plusieurs projets qui sont actuellement en cours. Et puis, on va rentrer dans le jeu de la solidarité internationale, non seulement avec la ratification de Kyoto, mais en acceptant en Italie les migrants écologiques. C'est-à-dire ces gens des îles qui sont dans le Pacifique Sud, où la mer monte, parce que la mer ne monte pas à la même vitesse partout. Et dans l'atoll de Tuvalu, elle monte très vite. Et les gens de cet atoll, il faut les déménager très vite. Alors, M. Howard, l'ancien Premier ministre, ne voulait absolument personne chez lui. C'est insensé. Ils ont 7 millions de kilomètres carrés.
Mais je ferme la porte quand même.
Quoi. Oui, c'était pas raisonnable du tout. Mais le nouveau Premier ministre, qui vient de prendre ses fonctions, va accepter aussi les réfugiés climatiques. Et donc se dessine, c'est un point optimiste à la fin de ce constat pessimiste, une nouvelle solidarité de l'Australie par rapport à la communauté internationale.
Alors, on en parle dans les médias, ça c'est sûr, mais on en parle moins que l'Australie comme étant Eldorado du minerai. C'est une réserve d'uranium absolument incroyable. Les plus grands fournisseurs de minerai aussi sont là avec des concentrations absolument énormes. Pour le libéralisme, avant tout, l'Australie c'est ça. Quoi. C'est notre réservoir de minerai.
C'est en effet tout à fait ça. Encore faut-il pouvoir y vivre dessus. Ouais. S'il y pleut plus, eh bien, il va se passer ce qui s'est passé pour les agriculteurs. Je ne l'ai pas dit. Il y a eu beaucoup de suicides d'agriculteurs. On ne peut exploiter un pays que quand les ressources en eau, en l'occurrence, sont là.
La machine fonctionne.
Et si la machine ne fonctionne pas, vous pouvez toujours aller installer des usines et des mines. S'il pleut plus, eh bien, vous déménagerez.
Oui, tout à fait. Voilà. Et puis même en agriculture, ils ont eu aussi un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a eu les fameux bousiers dont on parle, ces insectes... coprophages, donc dont on a absolument besoin, et ben qui ne faisaient plus leur boulot parce que ça fonctionnait plus, ils se sont retrouvés avec des bouses de manière absolument infinie sur les champs et donc tout ce petit monde-là dépérissait.
Les bousiers jouent un rôle très très important dans le recyclage des bouses et dans la fabrication de l'humus. Alors là aussi, probablement pour des raisons climatiques, plus que pour l'utilisation massive de pesticides, mais c'est, semble-t-il, surtout le climat qui a joué, ces insectes ne font plus leur boulot. Donc l'humus ne se forme plus. Donc vous voyez que la situation pour l'agriculture est très très inquiétante. Et j'ai lu 2-3 papiers où c'est très inquiétant. Il ne faut pas, aujourd'hui, être agriculteur en Australie. Et il faut passer à toute vitesse, si on l'est, à une irrigation goutte à goutte extrêmement parcimonieuse.
Jean-Marie, donc moi je vais vous renvoyer aussi à un ouvrage d'un homme qui s'appelle Tim Flannery, qui s'appelle Les Faiseurs de pluie, aux éditions Héloïse d'Ormesson, qui raconte mais merveilleusement bien effectivement tout ce problème sur l'Australie. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu verras, tu verras.
tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tu verras. Recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, tu verras, tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier l'archange du réveil, je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat, et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps, je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, le diable est fait pour ça, tu verras, je ferai le voyou, tu verras, je boirai comme un doux et qui vivra mourra. Ramassera dans tes yeux de rosée et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras contre toi, contre tous et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras tout recommencera, tu verras, Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras, tu verras notre enfant étoilé de sueur, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous scintillant de vigueur, tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé, tu me verras chérie allumer des clartés, tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
Du classique dans CO2 Mon Amour dont on ne se lasse pas, amis toulousains et les autres, avec Elisabeth Laville et cet ouvrage signé Elisabeth Laville et Marie Balmain aux éditions Village Mondial, Un métier pour la planète et surtout pour moi, qui est donc un guide pratique des carrières, du développement durable. Alors je sais qu'on peut mettre n'importe quel thème dedans, derrière développement durable, c'est-à-dire qu'on peut, certains vont vous dire oui mais vous savez c'est un cachex du capitalisme, c'est une garniture verte améliorée, mais ça peut être aussi quand même un levier de changement réel. Bon, donc on n'est pas dans cette émission du développementdurable.com, mais malgré tout, faisons quand même un petit peu un constat, Elisabeth Laville, ça bouge quand même pas mal quoi, dans notre pays, même si on n'a pas encore un véritable sens, parce que est-ce qu'il y a encore une cohérence politique, c'est autre chose, mais ça commence quand même à évoluer tout ça.
Dans les entreprises, ça commence à bouger, oui, ce qu'on voit, c'est que, enfin, en 15-20 ans, on va dire, les entreprises ont commencé par faire du mécénat en se disant, mince, il y a des problèmes sociaux, environnementaux, il faut qu'on fasse quelque chose. Et le plus facile qu'elles pouvaient faire,
c'était... La fondation, et puis
voilà,
après...
Fondation, mécénat, etc. Puis là, en faisant ça, elles ont commencé à rencontrer des ONG, des gens qui les interpellaient un peu de l'extérieur et qui leur ont dit, mais attendez, c'est sympa de faire du bien avec votre fondation ou vos activités de mécénat, mais qu'est-ce que vous faites dans vos pratiques quotidiennes, surtout si ce sont précisément ces pratiques qui aggravent le problème que vous essayez de résoudre par ailleurs.
C'est ça.
Et du coup, elles se sont mises à travailler sur les pratiques corporate, alors les certifications industrielles, les certifications des sites industriels, les achats, les RH, tout ce qui est en interne. Et puis, ça restait quand même assez marginal dans l'offre de produits et services. Et ça pose un problème parce que c'est quand même à travers l'offre de produits et services que les entreprises ont le plus d'impact. Mmh. Et là, on est en train de voir, dans certaines entreprises, au niveau international, une espèce de mouvement d'entreprises qui s'engagent à vraiment changer d'échelle dans leur offre. C'est-à-dire à plus dire on va être à 1, 2, 3% de notre chiffre d'affaires, mais vraiment on va passer à 30% du chiffre d'affaires, etc., dans 5 ans et plus ensuite. Et là, ça devient intéressant parce que du coup, ça change vraiment l'entreprise en profondeur, son business model quasiment et ses impacts.
Et elles sont vraiment aiguillonnées aujourd'hui par l'opinion publique.
De plus en plus, et il faut qu'elles le soient plus encore, pas seulement pour les aiguillonner pour qu'elles y aillent, mais pour que celles qui y vont y trouvent une gratification commerciale. C'est-à-dire que si des entreprises font des produits réellement plus responsables et qu'elles trouvent pas, que ces produits-là ne trouvent pas de marché, le risque c'est qu'elles arrêtent de le faire et que leurs concurrents s'y mettent pas. Donc il faut absolument effectivement qu'il y ait un écho du côté des consommateurs, de l'opinion publique.
Et alors derrière tout ça, il y a bien sûr donc ces métiers, donc ça nous concerne bien. Donc après ce préambule, j'ai dire comment accorder sa vie professionnelle avec ses engagements personnels, gagner à la fois sa vie et en même temps servir une cause. C'est aussi un petit peu ce que vous avez voulu montrer dans ce livre. Mais vous me disiez tout de suite là, à la fois on écoutait Nougaro parce qu'on aime cet homme, mais en même temps on me dit ouais attention Denis parce que ça concerne bien sûr les jeunes, mais de plus en plus ça évolue en matière d'âge, hein, ça.
Oui, en fait, c'est assez rigolo. Mais dans les chiffres, on voit les mêmes chiffres, en fait. Je crois que le chiffre, c'est une étude qui date d'il y a 2 ou 3 ans, mais 70% des jeunes diplômés disent qu'ils aimeraient intégrer ces questions-là à la recherche de leur futur employeur, donc essayer de travailler plutôt pour une entreprise qui intègre la dimension environnementale, sociale, etc. Et puis, quand on voit les études sur les cadres en poste, si vous changiez de boulot, etc., les chiffres sont à peu près les mêmes. Donc après, évidemment, on me dit en général, ah oui, mais alors les gens disent ça, mais en pratique, c'est pas ce qu'ils font.
Oui.
C'est un peu comme les consommateurs. Les consommateurs disent on est prêt à acheter des produits plus responsables. Puis quand on regarde les parts de marché des offres, il y a un gros décalage en tout cas. Et là, c'est un peu pareil. Il n'y a pas 70%. Bon. Sauf que la raison pour laquelle, à mon sens, il n'y a pas de transformation de ces intentions en actes, c'est qu'il n'y a pas l'offre. C'est-à-dire, il n'y a pas l'offre souvent de produits et services responsables qui permet aux consommateurs de passer à l'acte. Et il n'y a pas forcément l'offre d'emploi, entre guillemets, dans des entreprises significativement engagées là-dedans qui permet aux jeunes ou aux moins jeunes en quête d'un boulot de manifester ça dans le choix de leur employeur. Et effectivement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est une demande croissante chez les jeunes diplômés, tout type de diplôme confondu.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, on va prendre un diplôme, je sais pas, un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, etc. Et derrière ça, est-ce qu'il faut déjà avoir une spécialisation ou bien est-ce qu'on va se la créer après au sein de l'entreprise ?
Y a un peu les deux, en fait. C'est-à-dire que si on est dans l'étape que moi j'appelle 1.0, que je décrivais tout à l'heure, qui concerne surtout les pratiques industrielles, etc., de l'entreprise, il va y avoir en vrai pas énormément d'emplois, pas énormément de métiers, surtout des métiers de spécialistes qui vont aider les entreprises à modifier leurs pratiques. Mais comme ça reste en interne, c'est pas énorme. Donc il va y avoir quelques cabinets de conseil spécialisés en développement durable ou moins spécialisés, mais qui proposent des activités là-dessus. Il y a les gens qui s'occupent des fondations dont on parlait tout à l'heure, qui sont encore dans cette étape-là. Mais dans les entreprises, en général, c'est 1 ou 2 postes. Hein. Les gens qui font de l'audit un peu, qui vont regarder comment se comportent les fournisseurs, etc. Des gens qui vont faire un peu de communication, parce que les entreprises ont envie, vous l'évoquiez tout à l'heure, de communiquer sur ce qu'elles font, ce qui n'est pas aberrant non plus. Il y a quelques associations d'entreprises, genre le Comité 21 en France, qui emploie une petite dizaine de personnes. Les collectivités, dans les entreprises évidemment, on commence à avoir 1 ou 2 postes qui s'occupent de ça, des responsables de développement durable. Dans les collectivités aussi, on commence à voir ça, mais c'est pas, et quelques analystes financiers, mais c'est pas énorme en fait. Ça va faire quelques milliers d'emplois et ça va pas être une vague déferlante sur le marché de l'emploi, ce qui fait qu'on dit souvent, à la limite, il y a plus de demandes que d'offres là pour le coup, tant qu'on reste dans cette étape-là. Par contre, si on passe, et ce qui est en jeu maintenant, mais pour plein de raisons, et avant tout pour répondre aux enjeux planétaires qu'il s'agit de résoudre, si on passe à l'étape suivante, où on transforme de manière large l'offre de produits et services, là, potentiellement, ça transforme tous les métiers dans l'entreprise. Ça veut dire que tous les métiers classiques, entre guillemets, vont devoir intégrer la dimension développement durable. Un acheteur qui négociait avec les fournisseurs, qui définissait les cahiers des charges pour faire les produits, etc., va devoir intégrer les considérations sociales et environnementales à ce qu'il demande à ses fournisseurs, être capable d'avoir un avis sur le produit qu'on lui propose, ou savoir choisir entre 2 produits. Un responsable marketing ou commercial va devoir savoir vendre ça à la distribution, à son client, etc. Un directeur d'usine, évidemment, intègre ça aussi. Un chef de produit, vraiment là, les aspects marketing, va devoir essayer d'imaginer ce que ça veut dire de faire une gamme qui intègre ces considérations-là. Un responsable de ressources humaines va devoir intégrer ça aux formations qu'il imagine pour les équipes de l'entreprise, etc., etc. Et là, on est sur des métiers, du coup, des changements beaucoup plus profonds.
Là, il y a un vrai profond. Possible, bien sûr. Alors, indépendamment, parce que ça, on n'en parle pas forcément dans cette émission, mais des métiers concernant les déchets, l'eau, ça, c'est une chose. On refera une autre émission concernant les métiers de la nature, parce que là, on ne voulait pas tout mélanger, parce qu'il y en a aussi beaucoup de ce côté-là, mais ça, on le fera une autre fois. Et puis, alors, donc, ça va être intéressant, parce que nous avons donc en ligne une jeune femme qui a 27 ans, qui est à Angers, qui s'appelle Bénédicte Dupoiron. Alors, quel est votre parcours, à vous, s'il vous plaît?
Alors moi, j'ai d'abord fait une école de chimie Et puis j'ai continué sur une école, une année de supplémentaire en santé publique.
D'accord, donc on va mélanger, on va dire, la chimie aujourd'hui et la santé publique, parce qu'en fait vous êtes ingénieur conseil dans un bureau d'études privé en environnement. Et qu'est-ce que vous faites précisément ?
Alors moi j'assiste beaucoup les collectivités sur tout ce qui est traitement des eaux usées. C'est-à-dire que dans toutes les collectivités doivent gérer les eaux usées générées par toute la population. Donc nous, on leur apporte les compétences techniques pour assurer une bonne collecte et un traitement efficace avant rejet dans les rivières.
Parce qu'on sait quand même que les stations d'épuration, évidemment c'est très bien, mais parfois elles ne traitent pas forcément l'ensemble des eaux usées.
Voilà, donc il faut vraiment que toutes les eaux usées soient collectées et pas rejetées sans traitement dans le milieu naturel. Et il faut aussi qu'elles soient correctement traitées pour ne pas polluer nos rivières.
Alors comment vous faites d'un point de vue pratique, votre journée, comment ça se passe, Bénédicte ?
Alors, je passe beaucoup de temps au téléphone, que ce soit avec les mairies, avec la police de l'eau. Bref, un grand nombre d'acteurs qui soit à la responsabilité de l'environnement, donc que ce soit les institutions, soit les utilisateurs, donc certaines associations de pêche, et puis bien sûr la mairie.
Comment ça se passe ? Vous faites une analyse, vous regardez ce qui se passe, et puis après vous dites, attendez, là-dessus, vous avez intérêt peut-être à insister davantage, bon, ça vous laissez de côté. Comment ça se passe ?
Alors, c'est exactement ça. On regarde tout ce qui arrive au niveau des stations d'épuration, entre ce qui arrive aujourd'hui, ce qui va arriver demain, puisque les stations d'épuration sont construites pour 20 à 30 ans. Et donc, après, moi, mon travail, c'est vraiment de voir quelle est la qualité du milieu naturel que l'on veut obtenir, donc la directive cadre européenne sur l'eau, la fameuse qui doit être appliquée d'ici 2015, et donc le niveau de traitement nécessaire pour les eaux au niveau de la station d'épuration. Et donc moi je dis, voilà, en sortie, il faut que la qualité de l'eau traitée ait telle caractéristique, et pour ceci, il faut mettre telles étapes de traitement.
Bénédicte Dupoiron, alors moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment vous êtes arrivé à cela. Vous vous êtes dit, j'ai envie de bosser dans l'environnement, quand vous aviez fait chimie, enfin...
Moi, je viens de la Gironde, donc il y a une très très belle région. Et depuis toute petite, je me suis dit, il faut pas gâcher, que ce soit l'eau, la mer. Il faut qu'on fasse quelque chose pour l'environnement. Donc, tout de suite, je me suis dirigée vers les formations plutôt chimie. Et puis, la santé publique est venue assez tardivement, mais l'impact de l'environnement sur la santé, ça joue quand même beaucoup.
Et vous avez trouvé un job assez vite après ou...
Alors j'ai eu la chance d'être embauchée après un stage.
Et le stage, vous l'aviez fait dans votre bureau d'études ou...
Voilà, tout à fait. Donc on est présent sur tout le territoire français. Et chaque agence a une trentaine de personnes.
Est-ce que vous avez plutôt le sentiment de faire, on va dire, de la réparation, un peu comme le médecin qui arrive avec ses médicaments lorsque la maladie est déjà installée, ou bien vous faites aussi de la prévention pour garder, on va dire, un milieu en bonne santé ?
Alors, sur les eaux usées, nous travaillons beaucoup sur les stations existantes que l'on reconstruit, pour beaucoup quand elles sont vétustes. Donc là, c'est un petit peu de la réparation tout en améliorant quand même pour le long terme. On fait beaucoup de prévention depuis très peu de temps sur tout ce qui est pluie. Donc on met en place des bassins de rétention d'eau pour limiter les inondations en cas d'orage.
Écoutez, bon vent à vous. C'est un milieu dans lequel on recrute quand même ? Pas mal en ce moment ?
Oui, il y a énormément de bureaux d'études qui pointent leur nez. Il y a beaucoup de travail, il y a des choses à faire.
Merci à vous Bénédicte, et puis à très très bientôt.
Merci beaucoup.
Alors effectivement, vous le disiez, Elisabeth Laville, en écoutant Bénédicte Dupoiron, donc ces bureaux d'études recrutent pas mal. C'est marrant parce qu'on peut avoir une vocation comme ça pour la mer, puis vous disiez, puis après on se retrouve au milieu des stations d'épuration. C'est toujours de l'eau, c'est toujours de l'eau. Mais est-ce que on va, j'irais, au-delà de la simple gestion des risques, parce que parfois des gens vous disent, attendez, je fais ça, j'applique les normes, donc je fais de l'environnement, vous voyez, donc...
On trouve la même... ça concerne pas Bénédicte, ce que je vais dire, mais c'est vrai que souvent les entreprises, les grosses entreprises qui sont dans les métiers de l'environnement, eau, déchets, etc., énergie, disent, historiquement, elles disaient, on fait du développement durable par définition, parce qu'on est dans les métiers dits de l'environnement. Ce qui, évidemment,
forcément des pratiques qui sont tout à fait exemplaires.
Et typiquement, collecter des tonnes de déchets, on peut se dire, c'est mieux, évidemment, de contribuer à les réduire. Est-ce que ces tonnes de déchets n'existent pas ? Est-ce que ces entreprises entreprises commencent à faire aussi. Mais oui, non, ça va au-delà des normes. C'est, typiquement, là, sur l'exemple qu'on prenait de l'eau, on disait finalement la mer, les stations d'épuration, ça a l'air loin, mais en fait, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a un cycle global de l'eau et que ce dont on se rend compte, c'est avec l'émergence de ces questions de développement durable, de vision un peu globale, systémique, etc., il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, typiquement sur l'eau. On voit en Allemagne, par exemple, je crois que tout ce qu'on appelle les techniques de gestion alternative des eaux, notamment récupération des eaux de pluie, traitement de l'eau, au lieu de mettre des stations d'épuration, on met de ce qu'on appelle la phytorestauration, c'est-à-dire des stations d'épuration par les plantes, hein, plutôt que par les produits chimiques, etc. Donc toutes ces techniques de gestion alternative des eaux, qui concernent aussi des gros bâtiments, ça consiste à faire, par exemple, moins de parkings imperméables, mais on fait des parkings avec plus de perméabilité, de manière à ce que les eaux de pluie s'infiltrent doucement et n'aillent pas engorger les réseaux, puis faire des inondations. Bon, toutes ces techniques-là, qui sont en plein développement et très, très émergentes en France, en Allemagne, ça a déjà créé, je crois, 60 000 emplois. Donc là, il y a des vrais gisements d'emplois intéressants, nouveaux, qui ne sont pas que normatifs. Non pas qu'un emploi normatif soit forcément un peu rasoir, mais les jeunes qui travaillent là-dessus ont envie aussi d'avoir cette vision, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, cette vision globale et un peu plus systémique, environnementaliste presque.
Alors on va voir dans quelques instants une jeune femme qui a créé son entreprise aussi, qui elle fait du recyclage, et vous allez comprendre quel type de recyclage. Mais on va d'abord s'offrir Ray Charles, allez.
Moi, pour me séduire, il faut me parler d'amour ou d'environnement. Faites de votre mieux, CO2, mon amour. Mon cœur est libre.
CO2, mon amour, Denis Chessou. Hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, sweet baby. Don't you think maybe we could find us a brand new recipe? Brand new car and a $2 bill, yeah. Know a spot right over the hill. That's soda pop and the dancing free. So if you wanna have fun, come along with me. So hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me?
Good looking, CO2 my love, France Inter. Mais oui, en direct, nous parlons de ces métiers, de l'environnement. Heureusement, ça va bouger. Certes, ça ne bouge pas beaucoup, beaucoup encore chez nous, mais quand même. Et puis, il ne va pas y avoir le choix. Hein. Donc, autant effectivement s'y mettre. Elisabeth Laville, avant que nous écoutions cette pétillante jeune femme qui a créé sa propre entreprise, si on doit se mettre dans cet état d'esprit, si on veut travailler dans le développement durable, qu'est-ce qu'il faut, je dirais, avoir en tête? Parce que ça, vous le racontez très bien dans Un métier pour la planète.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est en train de changer, mais ça va encore pour quelques années, à mon avis, il va falloir faire un peu de conviction, faire acte de conviction auprès de la famille.
On est à la fin du Moyen-Âge, avant d'attaquer la Renaissance, vous voyez, donc c'est ça. Et donc, on est dans une période de transition.
Voilà, exactement. Oui. Donc, la transition culturelle, elle est valable aussi dans les familles. Oui. Et notamment pour les jeunes. Enfin,
qui doivent éduquer les parents.
Oui, puis des diplômes où on les voit assez bien arriver tout de suite dans la banque, dans l'audit, etc. Et soudain, patatras, ils disent non, mais en fait, j'ai envie de bosser dans l'environnement, dans une ONG de défense de la nature ou équivalent. Ça fait stresser.
Et là, les parents prennent 10 ans d'un coup. Quoi, tu ne veux pas être banquier?
C'est ça, c'est ça. ça fait stresser les proches. Donc je pense qu'il faut le plus possible essayer de s'entourer. Enfin, nous, on recommande beaucoup d'essayer de s'entourer, de rencontrer des gens qui sont déjà dans les métiers que vous voulez, histoire de pas fantasmer non plus oui. sur quelque chose qui n'existe pas, mais les rencontrer le plus possible, à la fois parce que le réseau, ça reste même hors du développement durable la meilleure façon de trouver un job,
bah oui.
et puis aussi pour montrer que c'est possible, enfin pour se conforter dans l'idée que c'est possible, etc. Donc ça, c'est hyper important, parce que sinon c'est vrai qu'on peut se décourager assez facilement. Les parents sont logiquement, ils sont pas coupables, mais ils sont inquiets. Donc ils disent, ah mais t'es sûr, si tu trouves pas de boulot, et puis les gens sont quand même toujours dans l'idée que ça va être difficile de trouver un job, etc.
Alors vous dites se libérer de l'obsession du salaire, même si c'est important, ouais. Oser être soi-même et renoncer aussi au compromis.
Ouais.
Consacrer son temps à ce qui vaut la peine, ça on peut le décliner d'ailleurs aussi pour d'autres métiers, mais quand même, donc avoir vraiment ce vrai but.
Ouais, peut-être là-dessus on peut dire un truc, c'est que la quête entre guillemets du sens d'un boulot, c'est pour ça que je disais ça concerne aussi les moins jeunes. Quand on regarde les chiffres, c'est complètement hallucinant. Je crois que 80% des gens qui travaillent aux États-Unis trouvent que leur travail n'a pas de sens. Mmh. Alors j'ai pas trouvé d'équivalent en France, mais par contre 30% des cadres trentenaires disent qu'ils sont déçus par l'intérêt de leur travail et 25% par le domaine d'activité dans lequel ils sont. Donc il y a quand même, ouais, c'est-à-dire que cette quête-là, c'est aussi pour ça qu'en ce moment ces métiers-là, on le vend en poupe. Au moins dans la demande des gens qui cherchent du boulot ou qui envisagent de changer de boulot, c'est juste parce que fondamentalement ce à quoi ça répond, c'est la quête de sens qu'a chacun dans son boulot. C'est quitte à y passer 8 heures par jour ou plus, même avec les 35 heures, autant voilà, que ça ait au moins, c'est pour ça qu'on disait un métier pour la planète et surtout pour moi, ça a un effet sur la planète et c'est aussi un sens en termes d'épanouissement personnel.
Alors il y a une femme qui a sûrement donné du sens à son boulot parce qu'elle l'a créé, elle s'appelle Marie Morard. C'est une jeune femme qui a 27-28 ans, qui est dans le département du Tarn. Je ne peux en dire que du bien, c'est beau le Tarn. Vous avez Albi, vous avez le Cidoble, la forêt de Grésigne, Gaillac, j'en passe et des meilleurs. Quelques types qui ont réussi dans la peinture, me semble-t-il, un certain Toulouse-Lautrec. Bonjour Marie Morard.
Bonjour Denis.
Alors Marie, vous êtes une jeune femme qui avait créé votre entreprise qui s'appelle Bois Valeur. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'abord de comprendre quelle était votre formation, vous, initiale. Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors au départ, j'ai fait une maîtrise de physiologie végétale.
Oui.
Ensuite, je suis rentrée en école d'agronomie en deuxième année.
Mmh.
Et puis après, j'ai fini par un DEA, puis une thèse au laboratoire de chimie agro-industrielle d'Elisabeth Bourdon.
Alors, en fait, vous transformez des déchets de bois en or vert. Qu'est-ce que ça veut dire? On fabrique quoi?
Alors, c'est-à-dire qu'on part de... Alors, on dit plus déchets, hein, on dit coproduits maintenant.
Oui.
Alors, c'est alors, au moment de la fabrication donc, des cajou-cagettes, donc ce qui est entreprise du déroulage du peuplier, c'est l'épaisseur de la lame de la scie fait un copeau.
Oui.
Et nous, on récupère ce copeau. On le traite de manière, avec une machine très performante, et on obtient au final deux produits, un produit liquide et un produit solide, et tous les deux sont valorisés en engrais. C'est-à-dire que le produit liquide va être mis dans l'eau d'arrosage, et le produit solide, ben, lui, va être mélangé à la terre.
La machine, c'est vous qui l'avez mise au point?
Non, en fait, c'est une machine qui était au départ présente au laboratoire donc d'Elisabeth.
D'accord.
Et qui a été en fait modifiée pour pouvoir être adapté à notre technologie.
C'est-à-dire que d'un côté, dans une entrée, on envoie le copeau, ou bien on va dire le côté ligneux de l'affaire, et puis de l'autre, va ressortir soit un jus, soit une poudre. Enfin, ou soit
Voilà, c'est ça.
Alors ça
voilà,
va être un fertilisant aussi bien pour le jardinier amateur que je suis que pour les professionnels, les agriculteurs.
Tout à fait. Oui. Exactement. On sent vraiment une envie d'avoir d'autres produits que des produits minéraux classiques.
Mm-hmm.
Et des gens sont vraiment motivés parce que, outre le fait qu'on valorise un coproduit de l'industrie du bois, on a quand même un produit qui a des propriétés, je dirais, agronomiques très intéressantes.
Vous avez toujours baigné, je dirais, dans cet univers environnemental. Bon, après, vous êtes une scientifique au départ, mais
oui.
Ça a été une véritable vocation, quoi, quand même.
Oui, je pense. J'ai toujours été intéressée par ça et toujours par ce côté de préservation, parce que c'est vrai que c'est un bien quand même qui nous a été donné et qu'il faut préserver et maintenir. Quoi.
L'idée que vous avez eue de vous dire, on va récupérer ces copeaux de peupliers, c'est venu comment? Parce que c'est là aussi.
Alors,
l'idée de se dire, ma matière première, elle va être là. Quoi.
C'est pas mon idée à moi,
oui.
je rends à César ce qui appartient à César, c'est l'idée de mon papa.
Merci papa.
Merci papa. En fait, c'était l'idée pourquoi... Alors d'abord, c'était au départ, c'est vrai comme tous les progrès, je dirais, qui ont été faits dans la recherche aussi, c'est que l'idée de départ, c'était pas pour faire un produit en fait qui soit à la vente, c'était pour faire un produit au niveau laboratoire qui soit des substances chimiques, puisque c'était les thèmes de recherche des laboratoires, mais qui soit surtout reproductible. Donc il fallait qu'ils aient un produit de qualité constante et ils n'arrivaient pas à le faire avec des produits qui étaient dans le commerce ou des produits du sol, ils n'arrivaient pas à avoir la même qualité.
D'accord.
Donc l'idée de départ, ça a été de faire des substances humiques constantes. Et donc après, pourquoi des copeaux de peupliers? Parce qu'on est dans la région donc du sud-ouest et qu'il fallait un bois qui soit un bois non traité. Ce qui est quand même assez rare au niveau des bois d'œuvre et des bois de pour faire des meubles ou pour faire des barrières ou autre. Donc il fallait un bois non traité et il fallait également une source qui soit pas trop loin de chez nous et facilement accessible.
Oui, mais que si on doit faire 500 km, ça vaut pas le coup, quoi.
Voilà, exactement. Et donc c'est comme ça qu'on en est venu à des déchets qui étaient de l'industrie des cajots cagettes, qui étaient donc dans le Lot-et-Garonne, à côté de chez nous.
Alors donc vous récupérez ceci, vous avez votre matière première donc avec ces fabricants, qui vous laissent récupérer donc ces copeaux, puis après vous les travaillez, quoi.
Voilà, on les travaille. Alors c'est un peu comme du café, c'est un peu ça s'apparente à la technologie du café, pour faire vraiment simple.
Non, c'est intéressant, Isabelle, parce que là on est dans la création, quoi. Elle a créé son job.
Il y a pas mal de y compris de jeunes qui font ça à la sortie des grandes écoles de commerce d'ingénieurs, qui se disent bon, qui cherchent, puis qui trouvent pas un truc qui correspond vraiment à leurs envies et qui créent. Il y en a eu pas mal dans le commerce équitable. Il y en a beaucoup, notamment en ce moment, les créateurs de Veja, une fille qui a créé une marque textile qui s'appelle Ideo, etc., etc. Il y en a quand même pas mal. Ouais.
Alors je me disais aussi, parce que donc j'ai pu avoir quatre contacts comme ça. On vous passera les deux autres une autre fois, mais il se trouve que c'est un peu le hasard, mais je sais pas. Mais il y a beaucoup de femmes. Hein, donc une fois de plus, là, vous êtes assez moteur dans cette affaire-là.
Ben ouais, moi je sais que chez Utopie au début on avait 80% de femmes et dans les postes, dans les entreprises, les responsables de mécénat, les responsables de développement durable, etc. C'est quand même souvent des femmes. Alors c'est en train de changer. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises s'y mettent, donc ça devient sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc au départ on avait surtout des filles et des profils école de commerce, etc. Et on a vu changer au moment où les grands groupes ont commencé à s'intéresser au sujet. On a vu arriver des hommes, des ingénieurs. C'est le signe que ça devient sérieux, quoi, pour moi.
Donc, c'est voilà. Alors sur votre site qui est très très bien fait, qui s'appelle Mes courses pour la planète, hein, ça vous retrouverez ce site .com, pardonnez-moi, sur le site de CO2 Mon Amour, donc Mes courses pour la planète, où là on a un certain nombre de produits, hein, que, enfin entre autres, mais que l'on décline aussi dans cette émission avec vous. Là, je me rends compte qu'il y a aussi, fort heureusement, pas mal d'hommes qui s'intéressent à ça, quoi. C'est-à-dire que maintenant, donc ces produits, cette consommation, faut y aller. Enfin, tout le monde y va. Hein.
Oui, bien sûr. Non, mais maintenant, non, mais c'est absolument plus du tout. Même si j'ai vu une étude récemment qui a été menée par les Suédois, qui est assez rigolote, qui montre que apparemment les femmes ont des pratiques moins destructrices pour l'environnement que les hommes. Oui, mais en même temps, alors j'ai vu déjà une critique de l'étude qui disait oui, mais de toute façon, c'est normal, parce que comme elles ne sont pas au poste de responsabilité dans les entreprises, elles ont des moins grosses bagnoles, elles prennent moins l'avion pour les voyages d'affaires, etc., etc. Donc, bon, non, mais aujourd'hui, ça concerne vraiment tout le monde. C'est ça qui est intéressant, c'est, je vous disais, maintenant, c'est le signe que ce n'est plus un mouvement alternatif, pas très pris au sérieux. Ça concerne tout le monde, et dans les entreprises, et en tant que consommateur.
Alors, dans votre livre, vous faites aussi le tour d'horizon des différentes possibilités. On va dire, aujourd'hui, ça va galoper. On a bien compris que là, il y a une dizaine d'années devant nous, où tout ceci va évoluer. On fera la même émission dans 10 ans, on ne dirait pas du tout la même chose. Entreprise pionnière, alors c'est quoi? C'est quel secteur que l'on comprenne, où on est là-dedans plus sensibilisé?
L'intérêt, c'est que maintenant, on est à peu près dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on a historiquement, si vous cherchiez un boulot sur ces sujets-là, vous alliez surtout dans chaque secteur, notamment grande consommation, c'est-à-dire les cosmétiques, l'alimentation, le textile, etc. Vous avez une ou deux entreprises pionnières, des fois internationalement connues, qui se sont distinguées, histoire qui sont plutôt petites par rapport aux géants mondiaux du secteur en général, mais qui se sont distinguées par des pratiques sociales, environnementales plus avancées, à la fois sur le bio, le commerce équitable, l'interne, enfin bon, là, plein de choses. Et vous avez ça sur à peu près tous les secteurs. Donc, c'est vrai qu'une première piste en général, pour quelqu'un qui veut un boulot là-dedans, c'est de chercher quels sont dans les secteurs qui vous intéressent, tant qu'à faire, parce que quitte à trouver un boulot de rêve, autant y aller carrément.
Ben oui.
Donc, vous intéressez au sport, vous allez chercher dans les équipementiers de sport, par exemple, quelles sont les entreprises qui ont des pratiques plus innovantes dans les petites pionnières. Alors le problème souvent, c'est que c'est des petites boîtes, du coup elles n'ont pas énormément d'offres d'emploi. Mmh. Et ensuite on peut élargir à, dans les grands groupes de ce même secteur, quels sont ceux qui sont les plus avancés. Donc on regarde ceux qui, c'est tout bête, hein, regardez le rapport annuel, regardez le site web pour voir ceux qui racontent des choses là-dessus, regardez les produits en tant que consommateur si vous intéressez à ce marché. Est-ce que vous avez déjà croisé des produits, j'en sais rien, des jeans bio, des chaussures un peu différentes, etc. Et plus il y a ça, plus c'est évidemment un indicateur que l'entreprise prend ça au sérieux. Et ensuite, du coup, on peut postuler pour n'importe quel job quasiment dans ces entreprises-là et dire que ce soit aux achats, au marketing, etc. Moi, j'ai envie, ce qui m'intéresse dans votre entreprise, c'est aussi ces sujets-là. Et donc, en parler à l'entretien d'embauche, dire est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités pour quelqu'un qui exercerait le métier pour lequel je postule, le job pour lequel je postule, d'intégrer ces aspects-là et pour voir comment ça réagit. Mais c'est, enfin, je pense que le demandeur d'emploi doit être aussi en situation d'offre là-dessus, de la même façon souvent que on dit aux gens dans les entreprises, vous pouvez essayer de contribuer à transformer votre boulot. Moi, j'ai plein d'exemples dans des grands groupes de gens qui étaient prêts à partir et puis qui finalement se sont dit, on cherchait un peu dans les ONG, tout ça, on n'a pas trouvé et se sont dit, bon, bah, je reste, mais je vais essayer de changer mon propre job en proposant d'organiser des conférences pour mon service sur ce sujet-là, etc. Puis le jour où un job est créé, bah, c'est à eux qu'on le donne.
Oui, et donc ça, c'est arrivé. Enfin, plus
c'est que... arrivé. Moi, genre, oui. Entre les deux éditions du bouquin, oui. En fait, il y a pas mal de gens qui nous ont écrit en disant, bah, c'est génial ce que j'ai lu votre bouquin à première édition. Oui. Puis du coup, j'ai essayé de chercher ailleurs. Puis du coup, je me suis dit, non, mais je vais suivre les conseils et essayer de changer mon job.
Je vais rester dans ma boîte.
Exactement.
Mais
ils ont fait savoir que ça les intéressait. Ils ont commencé à être un peu entrepreneurs du sujet dans la boîte en organisant, je vous dis, des conférences, prenant quelques initiatives. Et le jour, ils ont fait savoir un peu partout à l'ORH, à leur supérieur hiérarchique, que ce sujet-là les intéressait. Dans certains cas, ils ont commencé à leurs frais à se payer une formation en disant à la boîte, de toute façon, je vais le faire. Et soudain, on leur dit, ah ben, on crée un poste et en fait, on te le propose et même on prend en charge ta formation, etc., etc.
Comment on peut savoir au départ si je tombe sur une entreprise, on va dire, développementdurable.com pour faire simple, ouais. Une manière d'ailleurs un peu facile, mais et puis vraiment les gens qui le font, parce que moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est lorsque vous avez parfois donc le développement durable qui est raccroché à la com, alors là attention, méfiance. Ouais. En revanche, si c'est raccroché à la direction générale, ça veut dire que derrière il y a un véritable élan. Enfin,
Ouais, ça c'est mieux déjà.
Oui, c'est plus porteur.
Ouais, ben, on peut regarder ça. Ouais. Sinon, il y a quelques autres façons de regarder. Il y a des codes de conduite volontaires aujourd'hui, genre le Pacte mondial des Nations Unies, etc. Regardez ce que l'entreprise raconte dans son rapport de développement durable ou déjà dans sa communication. Est-ce qu'elle a signé ces codes de conduite volontaires? Est-ce qu'elle est membre? Il y a des associations d'entreprises, on mentionnait le comité 21, etc. On en liste pas mal dans le bouquin. Est-ce que l'entreprise est membre de ces associations-là? Est-ce qu'elle est membre d'initiatives sur son secteur qui essaie de faire bouger? On parlait de l'huile de palme. Il y a une table ronde des industriels qui font avancer les questions liées à l'huile de palme. Même si les ONG trouvent ça insuffisant, le fait qu'une entreprise y soit, c'est quand même le signe qu'elle a au moins conscience de ces sujets-là. Est-ce qu'elle est dans les indices boursiers spécialisés sur ces questions? Dow Jones a un indice spécialisé sur le développement durable. Regardez comment l'entreprise est classée si c'est une grande entreprise sur son secteur. Et puis regardez les classements des magazines de consommation. 60 millions de consommateurs que choisir publient régulièrement des classements. Alors là, basés sur les produits. Mmh. Mais regardez quand on classe des produits, est-ce que ces entreprises-là sont citées ou pas, par exemple? Et ça commence à donner ça une bonne idée. Regardez les publications des ONG sur le sujet. Comment les ONG parlent de cette entreprise-là, ça commence à donner une bonne idée de est-ce que c'est du pipeau ou pas.
Ils prennent à quel niveau? Est-ce qu'on peut se pointer, je ne sais pas, avec une licence? Est-ce qu'on peut se pointer uniquement avec son bac? Est-ce qu'il faut faire plutôt une grande école? Est-ce qu'il faut,
Ça va dépendre un peu. Si on parle des métiers spécifiquement liés au développement durable, d'abord, faut imaginer que dans les entreprises en France, aujourd'hui, 70% des postes de responsable développement durable sont pourvus en interne. Donc on prend des gens qui connaissent plutôt déjà l'organisation. Et qui généralement d'ailleurs sont pas forcément tout jeunes, enfin sont pas en début de carrière, mais il y a des exceptions cela dit.
Mais qui peuvent avoir besoin d'assistants.
Mais qui en général ont une équipe en moyenne je crois de 4 personnes, donc il faut bien trouver les 3 autres, si je puis dire, ou les 4 autres. Donc du coup, ça peut être des jeunes. Et le mieux, moi ce que je recommande toujours, c'est d'avoir une formation entre guillemets plus classique. Alors ça peut être fac ou grande école commerciale, ingénieur. Complété éventuellement par une formation spécifique développement durable, type master pour ceux qui ont fait des grandes écoles. Mais dans plein de cas, il y a plein d'autres façons de se constituer une expérience que de faire une formation. Vous pouvez faire des stages, vous pouvez prendre en main votre culture sur le sujet, aller dans des conférences, lire des bouquins, écouter C'est haut de mon amour, ce genre de choses. Faire des stages. Les associations type Greenpeace, Amis de la Terre, mènent des campagnes sur certains secteurs, sur la banque, sur l'huile de palme, on en parlait tout à l'heure. Donc ils cherchent des bénévoles qui travaillent avec les chargés de campagne sur ces sujets-là, et c'est une très bonne façon aussi d'acquérir de l'expérience et de la connaissance.
On va le rappeler, mais il y a quand même maintenant, autant il y a quelques années, monde de l'entreprise et ONG, ça ne fonctionnait pas. Bon, maintenant, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des partenariats qui se créent.
Ça fonctionne.
Ce qui
ne
veut pas dire que c'est un
blanc-seing.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, ça fonctionne comme carotte et bâton. C'est-à-dire que les ONG mènent des campagnes sur des sujets qui visent des secteurs, qui visent des entreprises, même dans certains cas, publiquement, alors sur le bois, l'utilisation du tech, enfin l'huile de palme, etc., les produits chimiques toxiques dans les cosmétiques, etc. Et puis, cible des entreprises. Et en même temps, du coup, quand les entreprises qui sont menacées, qui commencent à avoir peur d'une crise d'image et tout, viennent voir les ONG pour dire, bon, bah, alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Elles les aident à travailler sur ce sujet-là, à trouver des solutions, etc.
Alors voilà, donc des pistes, un métier pour la planète et surtout pour moi, Elisabeth Laville, Marie Malmain, aux éditions du Village Mondial. Et puis à très bientôt. Merci Elisabeth.
Merci Denis.